c'est quoi cette main verte, Alain Baraton?
C'est la mienne.
Oui, c'est un peu voyant.
C'est la mienne.
Bonjour Alain, aujourd'hui vous nous emmenez au château de La Roche-Guyon, c'est dans le Val d'Oise, pour une exposition consacrée à un peintre paysagiste, Hubert Robert, un artiste assez peu connu du grand public.
Eh oui, il fut pourtant célèbre de son vivant et ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées, mais son nom, il est vrai, ne bénéficie pas vraiment d'une gloire posthume. Hubert Robert est né à Paris en 1723 et il est reçu peintre d'architecture à l'Académie royale en 1776, puis dessinateur des Jardins du Roi en 1784. Il est l'un des tout premier conservateur du musée du Louvre, qui vient juste d'être créé, surnommé le peintre des ruines, voire des rocailles. Il est aussi considéré à juste titre comme un artiste paysagiste.
Mais Hubert Robert, un peu comme Jean-Jacques Rousseau, a plaidé en faveur du retour à la nature.
Et oui, les Français en ce temps-là ont soif de liberté, ce désir transforme le style des jardins. Le jardin à la française symbolise le pouvoir, la tyrannie, contrairement au paysager qui est un jardin d'agrément et de plaisir. Jean-Jacques Rousseau a écrit que la nature ne plante rien au cordeau. Son ami, le marquis de Girardin, créateur du jardin d'Hermenonville, lui aussi écrit, je le cite, « Le fameux Lenôtre qui fleurissait au siècle dernier acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte. » C'est terrible, vous vous rendez compte ? Acheva de massacrer la nature. Eh bien, c'est dans cette mouvance que s'inscrit Hubert Robert. C'est cet homme qui, le premier, va introduire du romantisme à Versailles en créant les Bains d'Apollon, un bosquet romantique aux contours harmonieux. Il va aussi intervenir à Rambouillet, Meudon, Compiègne ou à Méréville, et c'est d'ailleurs dans ce lieu qu'il affichera au mieux son immense talent.
Et donc il va intervenir aussi au château de La Roche-Guyon.
Il commence par transformer un donjon du XIIe siècle en une ruine pittoresque. C'était vraiment le spécialiste de la ruine. Il va suggérer dans le jardin la construction de plusieurs grottes incrustées de coquillages. Une cascade artificielle d'une hauteur, c'est considérable, de 22 mètres. Il va aussi, et surtout, laisser son empreinte.
Le domaine est longtemps resté abandonné. Il ne subsiste que des vestiges.
Oui, mais des vestiges de qualité qu'il importe aujourd'hui de conserver. Il est donc bien naturel que l'exposition Hubert Robert, comme vous l'avez dit il y a un instant, eh bien, se tiennent jusqu'au 26 novembre au château de La Roche-Guyon, c'est dans le département du Val d'Oise. Précision importante, c'est la première fois à ma connaissance qu'une exposition exclusivement consacrée à Hubert Robert et les jardins est organisée. Elle rassemble 80 œuvres dont certaines n'ont jamais été exposées.
Les tableaux du paysagiste Hubert Robert, c'est le conseil, l'un des conseils d'Alain Baraton. Autre conseil que vous réclament, que vous demandent les auditeurs, par exemple, Guylaine. Guylaine vous demande, Alain Baraton, est-il vrai que laisser les feuilles mortes sur une pelouse évite de mettre de l'engrais au printemps?
Ah, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et oui, sauf que c'est une erreur déjà d'utiliser la pelle. Mais c'est une erreur également de vouloir transformer son jardin en un tableau romantique en automne, en laissant les feuilles justement jaunir sur le gazon. On fait très simple. Vous avez une pelouse et vous avez un arbre. Les feuilles tombent et ces feuilles vont créer un tapis qui va faire une sorte de pellicule qui va empêcher l'eau contenue dans le sol de s'évaporer. Moralité, la mousse et les champignons trouvent là un terrain de prédilection et l'année suivante, vous le regrettez. Donc les feuilles sont belles. Elles sont belles sur l'arbre quand elles sont jaunes, rouges, orangées ou jaunes. Mais on les ramasse au fur et à mesure pour éviter justement
D'abîmer la pelouse.
Je vous remercie, d'abîmer la pelouse.
Et quand on ne ramasse pas les feuilles à la pelle, on les ramasse comment? Au râteau.
Au râteau et à la fourche.
Bon, bah très bien. Franck vous demande, Alain, quelle est la bonne fréquence pour arroser un oranger en pot?
Alors, l'oranger est une plante qui déteste le stress hydrique. D'ailleurs, nous en parlions hier très rapidement. Lorsque les fruits n'arrivent pas à maturité ou qu'ils se fendent, c'est lié à un problème hydrique. Il faut donc faire en sorte que la terre soit toujours humide. Attention, je ne dis pas humide en excès, il ne faut pas qu'elle soit détrempée, mais on n'attendra pas, contrairement à beaucoup d'autres plantes, que la terre sèche avant d'arroser. Donc la fréquence en automne est environ tous les 15 jours. On arrose légèrement, on évite de noyer le pot bien évidemment, mais dès que la partie supérieure de la terre est sèche, hop, on remet un petit peu d'eau.
Alain, on arrive au boulot. Question de Emma, quelle est la meilleure période pour boire la sève de bouleau?
Eh oui, ça se fait de plus en plus. Vous avez un bouleau dans votre jardin, vous faites un trou, eh bien vous mettez une paille et vous récupérez et en grosse quantité de la sève qui, paraît-il, est excellente pour la santé, pour le mental, pour le moral.
Vous devriez en prendre.
C'est ce que je vous remercie. Toujours aussi agréable, mademoiselle Martin. Eh bien, c'est au printemps et uniquement au printemps qu'effectivement on doit récolter la sève du bouleau. Une sève qui devient très à la mode. Je connais quantité de personnes très intelligentes et très évoluées qui en prennent. Je peut-être vous avez raison de m'y mettre moi aussi.
Une histoire de photosynthèse et chlorophylle à présent avec cette question de Thérèse qui vous demande tout simplement pourquoi les feuilles sont vertes.
Eh bien, parce qu'il y a dedans de la chlorophylle. Lorsque vous mettez à blanchir les pissenlits dans votre potager, vous les privez de soleil. C'est la raison pour laquelle les feuilles vont blanchir. Idem pour les endives qui, cultivées à l'abri du soleil, sont blanches car il n'y a pas l'action de la chlorophylle. Prenons un exemple concret, l'automne. En automne, la plante se sépare de son feuillage pour éviter d'avoir à souffrir du manque du gel et qui va empêcher l'absorption de l'eau. Que fait-elle ? Elle produit un coussinet à la base de la feuille, privant celle-ci, eh bien justement de la sève. La feuille, pour continuer à se nourrir, consomme prioritairement la chlorophylle, le vert disparaît et ensuite les autres pigments présents dans la feuille apparaissent, le jaune, le rouge ou l'orangé. Donc si les feuilles sont vertes, c'est simplement que la substance indispensable pour la photosynthèse, comme vous l'avez dit très justement, et la chlorophylle, et qu'elle est verte.
Une dernière question sur la couleur, à propos des carottes. Jackie nous dit qu'il existe aujourd'hui des carottes de toutes les couleurs, je n'étais pas au courant. Mais à l'origine, à quoi ressemblait-elle ?
Eh bien, c'était blanchâtre, de mauvais goût. Ce sont les maraîchers hollandais qui, à force de manipulation, ont fait que la carotte ait bon goût et soit orange.
Ah, c'est donc...
ça a été créé vers le XVIIe siècle. Bon. Voilà, c'est la sélection qui a fait que ces carottes deviennent vraiment belles.
Un dernier conseil pour ce week-end, c'est une balade. Les troisièmes journées des plantes rares et de collection. Non.
Oui, si vous le dites, certainement.
Ah bon ? Mais je crois que ça se passe à Saint-Côme d'Olt, c'est en Aveyron. C'était, paraît-il, l'un de vos conseils.
Ah oui, mais ça l'est, vous avez raison de le rappeler. Je vous remercie.
Je vous en prie, vous revenez quand vous voulez. Merci à Alain Baraton et à samedi prochain. Il est 7h51.